Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La crise migratoire tourne à la crise politique en Allemagne. Angela Merkel est soumise à un ultimatum fixé par son propre ministre de l'Intérieur. Horst Seehofer veut renvoyer chez eux des milliers de migrants, ce que refuse la chancelière. Nous ferons le point avec Cyril Sauvageau. La moitié des migrants de l'Aquarius souhaitent aller en France, affirme le gouvernement espagnol. Paris répond que les demandes seront examinées au cas par cas. Les précisions de Marie-Hélène Balestero. Invité de ce journal, le sénateur Michel Amiel de La République En Marche. Il revient d'une mission parlementaire au Yémen. À l'invitation de l'Arabie Saoudite, les Saoudiens s'opposent aux rebelles houthis soutenus par l'Iran au Yémen. L'actualité politique française, Laurent Wauquiez imprime sa marque identitaire à la tête des Républicains en limogeant sa numéro 2, Virginie Calmels. L'analyse de Stéphane Robert dans cette édition. Angela Merkel vacille ce soir. La chancelière allemande en poste depuis 2005 doit faire face à une fronde inédite de ses alliés bavarois de la CSU. Le parti jumeau de la CDU cherche à s'émanciper sur la question migratoire avec en première ligne le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer. Il ne veut plus que l'Allemagne accueille sans sourciller plus d'un million de migrants comme Angela Merkel l'a fait en 2015 et 2016. Horst Seehofer et la CSU ont donc fixé un véritable ultimatum à la chancelière Cyril Sauvageau.
Angela Merkel n'a plus vraiment le choix. Elle ne pourra pas revenir les mains vides du prochain Conseil européen. La pression de ses alliés conservateurs est trop forte, mais la chancelière a au moins obtenu un sursis jusqu'au 1er juillet avant que son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, ne mette ses menaces à exécution et décide de refouler les migrants aux frontières. 10 jours donc pour trouver un terrain d'entente sur la gestion des migrants avec les 28 ou au moins avec certains d'entre eux.
Nous allons chercher un compromis. Tout le monde sait à quel point ce sera difficile, mais cela peut aussi prendre la forme d'accords bilatéraux et intergouvernementaux. Ensuite, nous verrons quelle sera la prochaine étape, mais il n'y aura rien d'automatique.
Rien d'automatique, autrement dit, pas question de prendre pour argent comptant la menace du ministre de l'Intérieur. Angela Merkel ne veut pas parler d'ultimatum, elle se sait soutenue par son propre parti, la CDU, face au coup de force des conservateurs bavarois. En théorie, elle peut décider d'aller à la confrontation, mais la chancelière a-t-elle encore le poids politique suffisant en Allemagne et en Europe pour obtenir gain de cause? Les deux prochaines semaines seront déterminantes.
Cyril Sauvageau à Berlin, merci. Donald Trump s'est invité dans le débat politique allemand en critiquant Angela Merkel. Le peuple allemand est en train de se retourner contre ses dirigeants, a tweeté le président américain. Selon Donald Trump, à cause de l'immigration, la criminalité est très en hausse en Allemagne, ce que ne confirment pas les statistiques officielles outre-Rhin. Il reste que le viol et le meurtre d'une adolescente juive, Susanna Feldmann, le mois dernier à Wiesbaden, ont suscité une immense émotion en Allemagne. Le meurtrier présumé est un migrant irakien, Ali Bachar, dont la demande d'asile avait été rejetée. La crise migratoire est aussi au cœur de l'odyssée de l'Aquarius. Les 630 migrants qui se trouvaient à bord du navire humanitaire français sont arrivés hier à Valence, en Espagne. Les Italiens n'en veulent pas. Les Espagnols sont prêts à les accueillir, mais il se trouve que près de la moitié d'entre eux souhaitent demander l'asile en France. C'est en tout cas ce qu'affirme le nouveau gouvernement socialiste à Madrid. Marie-Hélène Balestero.
Selon le comité espagnol d'aide aux réfugiés, le CEAR, à leur arrivée hier au port de Valence, on a posé de nombreuses questions aux migrants de l'Aquarius et notamment deux. D'une part, on leur a demandé s'ils souhaitaient demander l'asile et d'autre part, s'ils préféraient rester en Espagne ou se rendre en France. Tous ont fait la demande d'asile. Par contre, d'après Paloma Fabiales du CEAR, interviewée par le quotidien El Mundo, hier les migrants ne savaient pas s'ils devaient choisir l'Espagne ou la France car ils étaient complètement déboussolés. On a donc préféré les laisser se reposer tranquillement. Ce matin, la réponse à la deuxième question est tombée. À travers un communiqué de presse, le gouvernement socialiste espagnol de Pedro Sánchez a fait savoir que presque la moitié des migrants ont manifesté leur volonté de demander l'asile en France. En attendant, ces migrants disposent d'un permis d'entrée extraordinaire de 45 jours en Espagne qui leur a été accordé pour des raisons humanitaires. Désormais, l'Espagne va appliquer la loi et examiner au cas par cas la situation de chaque migrant pour déterminer qui peut être considéré comme réfugié.
Marie-Hélène Ballestero à Madrid. Au Yémen, des milliers de civils continuent à fuir la ville portuaire d'Hodeïda. Il s'agit d'un fief de la rébellion Houthi soutenue par l'Iran. Mais aujourd'hui, Hodeïda est assiégée par la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite. Invité de ce journal, le sénateur La République En Marche Michel Amiel, qui s'est rendu au Yémen le mois dernier avec 5 autres parlementaires français. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors je précise que ce voyage a été organisé par la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Michel Amiel, première question, qu'avez-vous constaté lors de ce bref séjour au Yémen ?
Alors, par honnêteté intellectuelle, bien évidemment, je ne peux vous parler que de ce que j'ai pu voir et constater de par moi-même. Étant entendu que nous étions encadrés par la coalition, nous nous sommes rendus dans une ville du centre du Yémen qui est située environ à 150 km à l'est de la capitale Sanaa, où nous avons pu constater plusieurs choses. Premièrement, des camps de réfugiés. Deuxièmement, une prise en charge humanitaire et sanitaire par l'Arabie Saoudite, essentiellement par l'organisation gouvernementale, je dis bien gouvernementale King Salman, dont le but est à la fois d'apporter de la logistique sur le plan sanitaire, mais aussi, et ils ont beaucoup insisté sur ce point, à remettre dans une vie normale des enfants soldats. Voilà ce que nous avons pu voir. Ce que nous n'avons pas pu voir, par contre, et ça me paraît important de le signaler, et pour cause, c'est la non-présence donc d'organisations non gouvernementales, d'ONG, avec laquelle d'ailleurs j'ai rendez-vous dans les jours qui viennent dans le cadre d'une table ronde que j'ai organisée pour qu'eux me donnent leur point de vue et ce qu'ils ont pu constater en termes de situation.
C'est donc une situation humanitaire très difficile que vous avez pu constater.
Alors, c'est une situation humanitaire difficile liée d'une part au fait de guerre et en particulier à toutes les blessures de guerre, y compris en particulier les fameuses mines antipersonnelles. Par ailleurs, une situation que là, on n'a pas pu constater, sur laquelle on n'a pu avoir qu'un témoignage très vague des autorités saoudiennes, pour être précis, du directeur du King Salman Center, concernant l'épidémie de choléra. Bon, par ailleurs, effectivement, lorsqu'on nous dit que Marib est une ville qui est relativement sécurisé, et quand on voit un peu la situation sur le terrain, on se dit qu'est-ce que ça doit être ailleurs. Donc une situation qui effectivement est d'une extrême précarité, d'une extrême fragilité, et selon moi, c'est évident que si une offensive massive s'opère sur la ville d'Hodeïda, cela va encore aggraver les choses, avec probablement des exodes de réfugiés de cette zone vers des endroits réputé plus sécurisé.
Michel Amiel, vous pensez que la France a fait le bon choix en soutenant la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite dans ce conflit au Yémen ?
Question extrêmement difficile à répondre. Il y a des considérations qui ne relèvent pas que de l'humanitaire, mais du géopolitique, de l'économique, des grands équilibres en matière de puissance. On a décrit cette guerre comme étant une guerre par procuration, entre l'Iran d'un côté, l'Arabie saoudite de l'autre, et de ce que j'ai pu constater, entendre, et l'idée que je m'en fais, c'est qu'on ne peut pas être manichéen, qu'il y ait d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants. On a vraiment l'impression que c'est une situation extrêmement compliquée. Bien fort est celui qui peut dire vers quoi on tend. En particulier, est-ce qu'on va retourner vers une partition du Yémen entre d'un côté le nord et l'ouest qui resterait sous contrôle Houthi et le sud qui resterait sous un contrôle qui aujourd'hui est à déterminer parce que d'après les informations que nous avons, le sud aujourd'hui est soumis à la fois à les forces gouvernementales officielles légitimes, d'un autre côté des groupes et des groupuscules terroristes, il faut appeler les choses par leur nom, je pense à Daesh, je pense à Al-Qaïda, sans parler d'un véritable système tribal qui est le mode de fonctionnement, je dirais, ancestral du Yémen. Donc aujourd'hui, sur un plan politique, diplomatique, militaire, je ne me permettrai pas de porter un jugement de valeur personnelle.
Pourtant, la France a choisi son camp en soutenant la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite.
Oui, c'est clair. En même temps, ce n'est pas que la France. Il y a eu une résolution de l'ONU condamnant ce qui s'est passé dès 2014, c'est-à-dire le fait que les Houthis, j'emploie pas le terme de rebelles pour pas de mettre une quelconque connotation péjorative, ont provoqué cette avancée, renversant le gouvernement légitime, après qu'il y ait eu ce revirement très particulier du président Salé, qui, après avoir combattu pendant des années, les Houthis se sont ralliés, puis s'est de nouveau désolidarisé, ce qu'il a d'ailleurs payé de sa vie. On voit bien que la situation est d'une extrême complexité et que quelque part, bon, le choix français n'est pas qu'un choix de la France, mais un choix qu'on va qualifier d'international.
Michel Amiel, sénateur La République En Marche, président du groupe d'amitié France-Yémen au Sénat. Merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. L'actualité politique en France, dominée par cette nouvelle crise chez les Républicains. Le président Laurent Wauquiez n'a pas hésité à limoger sa vice-présidente Virginie Calmels. Première adjointe d'Alain Juppé à Bordeaux, Virginie Calmels s'opposait à la ligne très à droite de Laurent Wauquiez. Elle avait notamment critiqué le dernier tract de LR pour que la France reste la France. Question Stéphane Robert, comment peut-on analyser ce limogeage de Virginie Calmels ?
Laurent Wauquiez est convaincu que c'est la thématique identitaire qui va structurer le débat politique dans les années à venir. On voit un peu partout en Europe la progression des mouvements populistes. Les partis politiques anti-immigration ont le vent en poupe dans bon nombre de pays d'Europe de l'Est, aux Pays-Bas, en Suède et même maintenant en Allemagne. L'extrême droite est associée à l'exercice du pouvoir en Autriche et en Italie. Et en France, Laurent Wauquiez est en train d'épouser cette vague eurosceptique qui monte et qui veut rétablir les frontières nationales. Du coup, politiquement, il poursuit une forme de clarification au sein de Les Républicains sur une ligne politique qui avait déjà fait fuir un certain nombre de personnalités. Alain Juppé, Xavier Bertrand, Dominique Bussereau, Fabienne Keller. Aujourd'hui, ça continue avec la numéro 2 du parti, Virginie Calmels. Valérie Pécresse, elle, conserve un pied à l'intérieur du parti, mais a aussi un pied en dehors avec son mouvement libre. On peut se demander combien de temps ça va durer. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a beau en appeler au rassemblement de sa famille politique. Sans le rassemblement, rien n'est possible, a-t-il déclaré cet après-midi depuis Port-le-Cat. Ce n'est pas du tout ce qu'est en train d'opérer Laurent Wauquiez, qui semble lui avoir plutôt dans l'idée de prendre le leadership de ce qu'on appelle la droite hors les murs. Sorte de patchwork qui pourrait réunir une partie du Rassemblement National ex-FN avec une partie de la droite traditionnelle.
Stéphane Robert, merci. Et ce soir sur TF1, Virginie Calmels se reproche effectivement à Laurent Wauquiez d'imposer une ligne unique populiste et identitaire au sein de LR. L'ex-vice-présidente regrette de voir la droite, je cite, « éclater sous nos yeux ». On va terminer ce journal avec cette prouesse technologique venue de Norvège. Un avion a effectué cet après-midi son premier vol intérieur 100% électrique. Pour éliminer le kérosène, les Norvégiens ont utilisé une technologie proche de celle des voitures électriques. Et d'ici 20 ans, le pays compte bien électrifier tout son transport aérien domestique. Les précisions à Oslo de Grégory Tervel.
Il ne s'agissait que d'un vol aux ambitions limitées. Fabriqué en Slovénie par le constructeur Pipistrel, le petit avion qui a décollé puis atterri 10 minutes plus tard à l'aéroport d'Oslo fonctionne avec une batterie et un moteur électrique. Il n'a qu'une bonne heure d'autonomie et ne compte que 2 sièges, un pour le pilote, occupé à cette occasion par le patron de la Société publique des aéroports norvégiens, et un autre pour le passager, en l'occurrence le ministre des Transports norvégien. Marius Holm est le directeur de Zero, une fondation pour le climat.
Dans une dizaine d'années seulement, nous pourrons avoir des vols commerciaux 100% électriques sur des lignes intérieures norvégiennes. On pourra ainsi faire de grosses réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Les avions électriques seront de loin les plus rentables économiquement, car ça ne coûtera vraiment pas cher de les faire voler une fois qu'ils seront construits.
La Norvège entend devenir le leader mondial du transport aérien électrique, comme elle l'est déjà sur les voitures électriques. Elle prévoit une électrification de tous les vols intérieurs du pays d'ici 2040. La réduction des émissions de gaz à effet de serre serait alors d'autant plus importante que l'électricité produite en Norvège est 100% renouvelable.
Grégory Tervel, correspondant en Norvège. Retour en France avec le temps demain qui sera globalement ensoleillé avec des températures en hausse. Il y aura un petit risque pluvieux près des Pyrénées et sur les régions proches de la Manche. Partout ailleurs, le soleil s'imposera rapidement. Température minimale de 11 à 21 degrés du nord à la Méditerranée. Pour les maximales, comptez de 20 à 28 degrés sur la moitié nord, de 27 à 32 degrés au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.